Ma réflexion et la présentation qui en découle sont nées d'une observation, en fait, c'est de plusieurs observations d'un même phénomène. Et on en a eu un exemple, notamment avec la table ronde d'hier. Mais la réflexion est née d'une instance particulière qui a attiré mon attention grandement à l'époque. Donc, c'était l'année dernière, durant la journée d'études de gender-genre qu'on avait organisée avec le groupe de recherche Rêve en boucle. Je me souviens que durant la présentation de Pascal Laplante-Dubé, qui est assis ici, qui portait sur un ouvrage quand même assez avancé dans la série The Realm of the Elderlings de Robin Hobb. Donc, pendant sa présentation, se trouvait dans la salle une personne qui était intéressée en fait à lire la série et qui ne voulait pas se faire spoiler ne pas la nommer, c'est Roxane Chartrand assise devant moi. Et donc, elle désirait se garder la surprise des événements fictifs dont Pascal avait parlé dans sa présentation et elle voulait préserver sa mémoire des spoilers. Elle a donc quitté la salle durant la présentation de Pascal, se disant qu'elle réécouterait éventuellement les enregistrements faits par l'EIC au moment où elle aurait achevé sa lecture de la série. Il ne s'agit que d'un exemple marquant d'un phénomène qui prend ampleur dans les colloques et même dans certains articles qui analysent la culture populaire. Les avertissements de spoilers apparaissent systématiquement, des gens quittent les panels, se bouchent les oreilles, chantent parfois même, s'inquiètent à savoir si la communication divulgachera, pour prendre le beau terme de l'Office québécois de la langue française, de divulgacheur, donc si la communication divulgachera la série en cours de visionnement, en cours de lecture ou l'œuvre qu'on aimerait consommer éventuellement. Donc, lorsqu'on étudie l'imaginaire et les pratiques de la culture populaire contemporaine, et même lorsqu'on prend comme objet d'analyse, des œuvres parues dans les 20 dernières années, on se confronte à un corpus excessivement vaste qui nous est impossible d'en maîtriser l'entièreté du contenu primaire, éventuellement aussi avec les pratiques de binge-watching et autres, et le sens de frénésie et de vitesse à quel point les œuvres de culture populaire paraissent, surtout les œuvres sérielles. Donc, on a de la misère à keep-up, donc à prendre le dessus sur tout ce qu'on aimerait consommer. Et justement, aussi, dans la table ronde, ça a été un sujet à aborder, de savoir, on n'est pas tous au même niveau de séries qui sont parues déjà d'une dizaine d'années. Donc, il y a toujours ce conflit-là entre quelqu'un qui a déjà écouté, quelqu'un qui n'a pas écouté, et les spoilers qui peuvent émerger dans les analyses. Malgré tout, je me disais que il n'y aurait pas de spoiler alert dans un colloque sur la littérature du 17e ou du 18e siècle, par exemple, sur la poésie ou sur le nouveau roman français. Or, les pratiques changent éventuellement. Certes, on peut lancer à la blague un spoiler alert avant de dire qu'Emma Bovary meurt à la fin du roman de Flaubert, si vous ne saviez pas déjà. Je m'excuse, Simon. mais on ne serait jamais aussi frustré de l'apprendre si vous ne savez pas déjà, éventuellement. Que si je vous divulguais la mort à venir d'un personnage important dans une série télé que vous êtes en train d'écouter. Évidemment, certains secrets sont mieux gardés que d'autres. Les romans d'Agatha Christie, qui ont maintenant plusieurs dizaines d'années de vie, semblent imposer un plus grand respect pour l'identité des meurtriers révélée à la fin des récits que l'identité, par exemple, du père de Luke Skywalker. Ou même, spoiler alert pour Force Awakens, épisode 7 de Star Wars, la mort de Han Solo dans le film qui est paru en salle en 2015. Donc déjà là, il y a une espèce de décalage temporel qu'on peut observer ici. Ah, il y aura toujours une œuvre qu'on aimerait consommer sans en connaître la fin, parce que bien que nous étudions la culture populaire, on est aussi des amateurs et des amatrices de ces mêmes œuvres dans notre vie non académique. Ça arrive des fois. en faisant des recherches pour ma présentation, j'ai aussi éprouvé mes propres réflexes d'anticipation et de répulsion devant l'éventualité de lire par accident un spoiler dans les articles que je consultais, et ce, même pour des séries que je ne voulais pas nécessairement regarder, comme Lost par exemple. J'avais aucune intention d'écouter Lost, mais j'avais quand même pas envie de savoir qui tuait qui à quel moment. Donc je vais essayer le moins possible de vous spoiler quoi que ce soit durant ma présentation, mais je ne peux rien vous garantir pour l'instant. L'utilisation des spoiler alert et même la notion même de spoiler et la réaction qu'elle provoque chez la plupart d'entre nous ici présentes semblent ici avoir avec un certain type d'expérience influencée par plusieurs facteurs. J'entends le mot expérience ici comme le fait d'éprouver personnellement quelque chose. faire l'expérience de la lecture ou de la spectature est par conséquent un acte personnel, subjectif, mais qui mobilise un ensemble de processus interprétatifs réglés en fonction du texte. Je prends le terme texte ici dans son sens le plus large, là, donc qui peut inclure tout médium ou support médiatique. Donc, en fonction du texte dont on fait l'expérience. Le spoiler peut donc ruiner, si on se réfère à son étymologie, des textes qui possèdent une forme particulière de narration, donc qui est très souvent sérielle, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains genres fictifs ont plus de potentialité d'avoir des fins surprenantes, comme le genre policier, évidemment, le suspense, certains récits d'action où il y a beaucoup de morts de personnages aussi. Certaines formes de récits, comme la nouvelle et sa finale surprenante, offrent un danger plus grand que le plaisir de lecture soit gâché par la connaissance de certains éléments du récit préalable à la première lecture. Bien que le texte détermine une partie de son interprétation, donc fuir ou vouloir se protéger des spoilers sous-entend un certain investissement cognitif et affectif dans l'œuvre que je lis ou je regarde. Ainsi, notre attitude vis-à-vis des spoilers soulève des questions qui touchent à la fois au plaisir du texte, au pouvoir immersif de la fiction, aux enjeux entourant les communautés de fans, et qui nous poussent même à devoir réévaluer la définition même que nous donnons à la notion de texte. Pourquoi donc avons-nous peur des spoilers? Avant de plonger au cœur de considérations plus théoriques, donc je reviendrai sur les sujets que j'ai mentionnés plus tard dans la présentation, j'ai décidé d'aborder le sujet à partir d'un débat encore d'actualité, c'est-à-dire le débat qui oppose la critique majoritairement cinématographique dans les médias mainstream et les communautés de fans. Donc, d'un côté du débat d'abord, les blogs qui traitent de nouvelles sur les œuvres de culture populaire ou encore les forums de discussion ont normalisé la pratique du spoiler alert en intégrant des outils de graphisme, comme on voit à l'écran en ce moment, ou simplement en indiquant la présence de divulgateurs dans la publication initiale d'une discussion sur Reddit, par exemple. Des blogs comme IO9, que j'ai montré précédemment, font notamment des compilations dans ce qui s'appelle des « morning spoilers », donc des nouvelles à venir, à partir d'œuvres qui ne sont pas encore parues, à partir d'indices ou même seulement de comptes rendus de conférences de presse sur les œuvres à paraître. Donc, j'en profite ici pour ouvrir une brève parenthèse, que l'exemple des « morning spoilers » témoigne de la difficulté de donner une définition précise et englobante de la notion de « spoilers ». Donc, pour emprunter les mots de Jonathan Gray et Jason Mitchell, qui étudient le fandom de Lost, le « spoilers » est dans l'œil de celui ou celle qui le regarde. Ainsi, c'est l'interprète du texte qui détermine de manière très subjective et idiosyncrasique ce qu'il ou elle définit comme un « spoilers ». Il peut s'agir d'éléments d'intrigue qui dévoilent la fin du texte, la mort de certains personnages, c'est plus courant, des revirements de situation ou des plot twists surprenants. Certains fans considèrent les previews d'épisodes à venir ou les previously on, dont on parlait hier, au début d'un épisode ou d'une série télé comme des spoilers, puisqu'ils indiquent les événements qui peuvent refaire surface pendant l'épisode. Le casting d'un acteur ou d'une actrice, la fuite prématurée d'un scénario ou même la pub d'une gamme de jouets ou de produits dérivés peuvent aussi constituer des spoilers. Donc, pour ma présentation d'aujourd'hui, je vous laisserai le soin d'utiliser votre propre définition du spoilers, considérant que je m'intéresse moins à l'objet lui-même qu'à l'expérience très personnelle qu'on peut avoir d'un spoilers. Donc, je ferme ici ma parenthèse. Parallèlement, donc, si les médias consultés en ligne n'offrent pas d'avertissement, on peut se prévenir des spoilers avec une petite vidéo de toutes les extensions qu'on peut ajouter à Chrome, donc le navigateur Internet. J'arrive pas à la fin de la liste, là, donc ces extensions peuvent bloquer des informations non désirées. Donc on voit, il y a beaucoup de fandoms qui reviennent, comme Star Wars et Game of Thrones notamment. On assiste aussi à une mobilisation collective des communautés de fans qui repose sur beaucoup, beaucoup de bonne foi à la sortie de certains films ou de certaines séries pour effectuer une espèce d'embargo de spoilers de la dite œuvre. On voit ça notamment avec Star Wars qui donne comme un 2 mois où on essaie de ne pas divulgacher sur Internet avec des mimes ou des références explicites, ou avec Infinity War récemment, qui est un petit peu le même phénomène qui s'est produit. Voilà. Ça a continué à descendre. De l'autre côté du débat, les critiques des médias mainstream dénoncent cette séparation des informations qui rendent leur tâche plus difficile. en évitant de révéler des informations plus détaillées sur le contenu du film, par exemple. Ici, on a un exemple d'une critique de Infinity War dans le New York Times. Cette pratique restreint les paramètres de la critique, pour citer le critique ici, M. Scott. Et donc, ça restreint les paramètres de la critique à une appréciation vague du plaisir qui sera ressenti durant le visionnement du film. Donc, c'est moins par respect pour les fans que par peur, et avec beaucoup, beaucoup de condescendance, qu'on peut voir dans les extraits que j'ai soulignés ici, la critique mainstream divise les critiques en versions non détaillées, donc pour les personnes qui n'ont pas encore vu le film et qui aimeraient peut-être s'intéresser à aller voir l'œuvre sans se faire spoiler, et leur version détaillée. Comme on peut voir ici, donc en plein milieu de l'article mentionné précédemment, il y a un lien qui apparaît justement entre deux, trois paragraphes et qui nous amène vers la version plus détaillée de la critique du même auteur. Alors, voilà. On peut voir ainsi que la critique cinématographique mainstream a fini par piller aux nouveaux usages par la force des choses, les choses ici étant les plaintes assez violentes souvent des fans. La personne encyclopédique en ligne aussi, Wikipédia, a elle aussi été au centre de débat sur l'intégration des avertissements de spoilers. Je mentionnais Agatha Christie plus tôt, donc dans sa pièce de théâtre de Mousetrap, qui joue en Angleterre sans interruption de plus d'un mois depuis maintenant 66 ans. Donc, la pièce a vu sa fin révélée sur sa page Wikipédia, et le petit-fils de l'autrice, Matthew Pritchard, a adressé des critiques au site web, puisque Agatha Christie désirait que la fin de sa pièce ne soit jamais publiquement révélée. Donc, même on peut voir dans les taglines que j'ai mis un peu juste à côté, qu'on encourage les spectateurs et les spectatrices de la pièce à garder le secret sur l'identité du meurtrier de la fin de la pièce, et aussi le mystère. Donc, on voit le « Keep the secret and the mystery lives on », c'est sûr que ça l'indique ça ici. Or, bien que Wikipédia intégra à ses débuts des avertissements de spoilers, à partir de 2006, la pratique a cessé graduellement pour cause de redondance et de subjectivité. Donc, ici, sur la page Wikipédia spoiler, donc, qui explique un peu le processus éditorial de Wikipédia, on mentionne qu'aucun outil de travail, les raisons pour lesquelles on a arrêté, donc ça dit qu'aucun outil de travail académique ne contient d'avertissement. On peut peut-être remettre en question avec les développements plus récents cet argument-là. On dit aussi que déjà que si on te dit que ça va être un résumé de l'œuvre ou une description plus détaillée, c'est un peu redondant d'utiliser spoiler alert et de parler d'une description détaillée, donc ça, c'est un peu redondant. Mais c'est très important aussi, un peu comme je mentionnais plus tôt, l'interprétation subjective, l'importance des détails. Donc, pour certaines personnes, des spoilers n'ont pas la même définition. Ça rend vraiment difficile la systématisation de la pratique, donc ils ont décidé de juste les mettre, puis faites attention quand vous lisez Wikipédia. Voilà. Donc, à partir de ces débats, on peut dégager dans un premier temps deux postures distinctes. Donc, d'une part, on a la posture des fans ou celle du grand public un peu moins fan, mais qui veulent tout de même éviter les spoilers. Cette posture, en fait, ces gens s'organisent en communauté, développent des techniques de partage et de critique des œuvres, ou même développent des applications, des extensions de navigateurs Internet, visant à séparer les espaces de discussion avec et sans spoilers. De l'autre côté, on a la posture évidemment des critiques qui s'intéressent peu de se protéger des divulgateurs et qui priorisent une analyse et une appréciation de l'œuvre dans son ensemble, donc sans amputer la narration de sa fin, quitte à révéler des mystères et des surprises intrinsèques à la narration d'origine. Et donc, ils évoquent l'argument d'espèce d'étude en profondeur du médium, ils s'intéressent plus à la qualité de l'exécution, donc dans la critique mainstream, et relaient alors dans leur discours donc, la fiction et l'investissement affectif au second plan. Des études de Matei Kalinescu sur la relecture suggèrent en ce sens que la première lecture est habituellement un processus diachroniquement linéaire. On pourrait comparer à la notion de lecture en progression de telle que Bertrand Gervais l'a définie, c'est-à-dire un mouvement de lecture qui s'intéresse à comprendre les éléments du texte et qui adopte le protocole institué par le contrat de lecture. Kalinescu suggère la possibilité, en fait, d'effectuer une double lecture, donc l'équivalent d'une relecture au moment de la première expérience du texte, qui serait facilitée par une connaissance préalable des éléments de l'intrigue, donc par la connaissance des spoilers. Les études psychologiques sur le sujet, donc j'ai pas le temps d'en parler en détail ici, mais on pourra en discuter pendant la période de questions si ça vous intéresse, parce que j'en ai eu quand même un bon paquet. Et aussi que les sondages effectués dans les communautés de fans par des chercheurs comme Henry Jenkins, évidemment, dans sa recherche sur la communauté, le fandom de Survivor, et Jonathan Gray et Jason Metal, que j'ai mentionné précédemment, donc sur Lost. En fait, ces deux types d'études, donc les sondages et les tests, confirment l'hypothèse de Matei Kalinescu au sujet de la compréhension du texte et des spoilers. Donc, la connaissance des spoilers favoriserait une compréhension en profondeur du texte dès la première lecture, et c'est un peu prouvé. Kalinescu associe ce dernier type de relecture, donc celui, la lecture en profondeur, aux critiques et aux universitaires dont l'expertise dans le domaine, je traduis ici un peu loucement la citation que je vous montre. Donc leur expertise dans le domaine leur permet d'analyser la construction de l'œuvre et identifier ses éléments méta-réflexifs ou intertextuels au moment de la première lecture. À l'inverse, l'auteur associe le plaisir naïf de la première lecture linéaire et curieuse, donc au happy ordinary reader. Or, selon Bertrand Gervais, les deux économies de l'acte de lecture, donc la lecture en progression et la lecture en compréhension, donc qui renverse le rapport de subordination au texte dans le but d'effectuer une lecture d'acquisition des éléments du texte et d'en faire une interprétation. Donc, ces deux opérations-là sont indissociables, en fait, et ne constituent pas nécessairement deux moments distincts de la lecture, et ce, peu importe l'expertise académique ou non de l'actrice ou du lecteur. On remarque alors que les deux postures que j'ai postulées précédemment sont moins nettement distinctes. La compréhension du texte et le plaisir de lecture, bien qu'ils puissent être interreliés corrélativement, doivent être considérés distinctement lorsqu'on parle d'expérience du texte. Donc, d'une part, la pratique des fans qui consomment des spoilers, donc les fandoms que je mentionnais précédemment et les études d'Henry Jenkins, Jonathan Gray et Jason Metal, donc qui étudient vraiment les gens qui sont passionnés de ce type de consommation-là et de lecture des textes. Donc ce type de pratique nous pousse à étendre la définition du texte en prenant en compte ses usages paratextuels par les communautés en ligne. Donc, l'espèce de jeu, essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer, la discussion, on découvre des indices, surtout avec Lost. Donc, il y a des indices parce que la série est construite comme un puzzle. Donc, on essaie de trouver des morceaux du puzzle et de faire des hypothèses et de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, les fans des spoilers consomment ainsi le texte comme un jeu et le plaisir de l'expérience leur vient en grande partie à travers l'expérience collective de cette chasse au trésor et l'interaction avec les autres membres de la communauté. Ainsi, les spoilers font éclater les frontières du texte telles qu'elles se conçoivent dans les théories plus linéaires de la lecture empirique sur la redéfinition de ces notions de texte dans ce contexte très spécifique. Je vous renvoie à l'étude de Jonathan Gray dans son ouvrage « Show Sold Separately, Promotes Spoilers and Other Media Paratexts » où il redéfinit vraiment la notion de texte en fonction de ces paratextes-là qui prennent des formes assez hétéroclites souvent, mais qui essaient de les intégrer justement à son étude du texte, qui n'est plus nécessairement qu'est-ce que l'auteur ou les producteurs décident de créer. Et d'autre part, donc dans une espèce de redéfinition de l'autre posture, donc il existe quand même une posture critique qui veut composer avec les contraintes des spoilers, mais qui valorise tout autant l'analyse en profondeur du texte. Donc, c'est le questionnement à l'origine de ma communication, l'observation des manières de négocier le plaisir naïf, pour reprendre le vocabulaire de Matei Kalinescu, de la première lecture et la critique, tout en considérant l'expérience de la tension narrative pour se référer aux thèses de Raphaël Baroni, donc qui définit la tension narrative en fonction du suspense, de la curiosité et de la surprise. Donc, on essaie de lire dans un premier temps de façon naïve et de vivre la tension narrative dans son déploiement affectif le plus pur et de vivre ces étapes-là et de les intégrer par la suite dans nos analyses postérieures en profondeur des textes. Nous effectuons certes des analyses incomplètes, utilisons des spoiler alerts qui encouragent des écoutes différées et des lectures retardées des analyses académiques, et ce, dans le but de se laisser aller au plaisir d'une première lecture qui ne soit pas, en fait, qui soit spoiler-free. Pourquoi alors lire pour, ou regarder pour la première fois? Pourquoi vivre les surprises? Pourquoi vivre les plot twists et succomber volontairement aux subterfuges, aux mensonges des narrations trompeuses? Pourquoi lire dans le bon ordre et vivre la tension narrative telle que le texte voulait nous la faire vivre? Lorsque je suis la mécanique du texte, lorsque je m'inscris en rouage à la machine interprétative du texte ou, autrement dit, lorsque j'essaie de me mettre dans les souliers de son lecteur modèle, pour reprendre le concept d'Umberto Eco, je désire faire une expérience qui est celle des fans, ou du moins lorsque moi, Megan, j'effectue lorsque moi je suis fan. Ma volonté personnelle d'éviter des spoilers dérive ainsi d'une démarche auto-ethnographique, où je fais l'expérience de la nouveauté et que je considère comme une expérience authentiquement, ici je mets des guillemets, fan, puisque cette expérience m'offre une meilleure compréhension de l'objet que je consomme et de la relation, aussi très importante, affective que j'entretiens avec lui. C'est donc moins le plaisir du texte qui m'intéresse que les discours et la posture sous-entendue par la réaction que j'ai par rapport aux spoilers. Autrement dit, je m'intéresse moins à savoir si cognitivement et affectivement les spoilers augmentent ou non le plaisir relié à la première lecture, mais plutôt à savoir ce que l'animosité envers les spoilers et les implications que ce type de discours charrie, ainsi que les stratégies utilisées pour négocier la critique et le plaisir du texte, révèlent sur une certaine posture académique et sur l'idée que nous, acafans, donc nous nous faisons d'une expérience authentique de la lecture ou de la spectature. Or, il y a plusieurs manières d'être fan, comme on l'a vu, et fuir les spoilers, c'est juste une manière parmi d'autres de consommer le texte. Donc, on pourrait aussi être fan de spoilers et consommer le texte dans cette perspective-là et l'utiliser dans notre étude ethnographique. La volonté de se préserver des spoilers et de faire l'expérience une première fois sans connaissance préalable de l'intrigue provoque par conséquent une certaine posture d'abandon affectif par rapport à l'objet, une certaine posture acafan. Dans Fan Culture, Matt Hills définit les acafans comme une posture hybride qui négocie deux points de vue, deux approches radicalement différentes des objets populaires. Cette bipartition première, analogue à la première bipartition que j'ai effectuée précédemment entre la critique et les fans, participe à l'instauration de discours reproduisant des dualismes moraux, comme ils les appellent, c'est-à-dire une tendance à homogénéiser les groupes qui serviront de repoussoir lors de la construction de notre identité. On assiste à une marginalisation mutuelle des deux positions. Donc, d'une part, l'une sera valorisée, l'autre sera délégitimée. Ces discours antinomiques se structurent, selon Hills, à partir d'une subjectivité imaginée, donc « imagined subjectivity », c'est-à-dire une version idéalisée d'une subjectivité qui ne correspond en rien au sujet empirique et qui permet d'établir et de maintenir une communauté ainsi que le système de valeurs qui lui est associé. La subjectivité imaginée accorde en ce sens une importance au trait d'une communauté donnée. L'identité universitaire, par exemple, valorise le sujet rationnel, l'objectif et l'argumentation, la persuasion, tout en dépréciant, donc, d'autre part, ceux des groupes qui se situent à l'extérieur. Donc, dans ce cas-ci, ça serait la passion et l'engagement émotionnel des femmes. L'approche ethnographique et auto-ethnographique constitue en ce sens une tentative d'allier l'expérience fan vécue à la critique universitaire. La posture acafane nécessite alors d'embrasser les contradictions propres à ce point de vue hybride, variant nécessairement en fonction des usages des chercheurs et des chercheuses. La construction de l'identité acafane s'effectue ainsi à partir d'une subjectivité imaginée qui rassemble nécessairement des individus en collectivité dans l'opposition à un autre servant de repoussoir. Le regroupement sous-entend alors un double mouvement. Donc, le premier mouvement désigne la construction et la consolidation de la collectivité qui s'assemble autour d'une certaine subjectivité imaginée et contre une autre, nécessairement. Plus qu'une subjectivité imaginée, on pourrait alors parler, pour reprendre les thèmes de Benedict Anderson, de communauté imaginée. Donc, si Anderson cherche à théoriser l'identité nationale et le nationalisme, entre autres à partir de la notion d'imaginaire collectif, son approche constructiviste s'agence à plus petite échelle, certes, avec la notion de subjectivité imaginée utilisée par Matt Hills. Le partage du plaisir du texte et plus généralement de l'appréciation constitue, dans le cas du sujet qui m'intéresse aujourd'hui, une dynamique essentielle à la formation de la communauté et à sa consolidation. Intervient ici dans la formation de l'identité acafane une dimension fortement socio-affective au sens où l'individu se construit à travers son expérience affective partagée avec une communauté qui a vécu une expérience similaire ou à tout le moins qui recherche cette expérience similaire. Le second mouvement est celui de l'interprétation des œuvres en fonction de la communauté dans laquelle l'interprète s'inscrit.
On dépasse 25. J'ai laissé un 5.
OK. C'est bon, j'achève. Donc, en fonction la communauté interprétative, donc pour reprendre le concept de Stanley Fish, qui dirige influence et interprétation des textes, par conséquent, l'interprétation pragmatique du texte s'effectue en fonction d'expériences affectives partagées et similaires. À ce point de vue, c'est intéressant de se méfier aussi de nos habitudes de lecture et de se retourner parfois pour observer ce qui se cache dans leurs angles morts. La construction identitaire du groupe Acafan, qui fut les spoilers dans le but conscient ou inconscient d'effectuer l'expérience de la nouveauté et de lire le texte dans l'ordre où il était destiné. Donc, cette communauté donc, s'organise très précisément autour d'un type d'expérience affective et cognitive particulier. Je vais sauter pour conclure tout de suite. Donc, lorsqu'on s'aventure aussi rapidement sur lorsqu'on s'aventure du côté des théories sur l'acte de lecture, tel que Bertrand Gervais les définit, notamment dans Figure Lecture, et l'acte de spectature, tel que défini par Martin Lefebvre. Donc, celles-ci font intervenir le concept de figure pour tenter de définir le processus d'appropriation singulier du texte. Ceux-ci demandent alors comment les œuvres marquent mon imaginaire, comment finissent-elles par s'amalgamer à ma vie, à mes souvenirs, comment je m'approprie les fictions. La figure prend forme alors lorsque je suis captée, je suis surprise par ces histoires, mais pour qu'elle attire mon attention et qu'elle devienne figure, je dois me rendre disponible à cette rencontre. La posture acafane, donc celle qui fuit les spoilers et qui désire éprouver la nouveauté narrative, s'ouvre aisément à ces rencontres fortuites, à la surprise de se voir happée par la fiction et à s'abandonner pour se laisser contaminer, se laisser transformer par l'expérience du texte. Merci. Ah.